Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Monsieur Ahmed Ben Bella, déjà chef du gouvernement algérien, vient d'être élu à la présidence de la République. Désigné par le Front de Libération Nationale, il était seul candidat à cette charge, d'autant qu'il avait su écarter lui-même ceux qui ne souhaitaient pas lui voir de pouvoir plus étendu. Le président Ben Bella, qui a été plébiscité dans la plupart des régions, pourra compter désormais sur l'appui de la population, ce qui lui permettra de poursuivre la tâche qu'il s'est fixée.
C'est fait. Après les années de prison et la rupture avec ses compagnons, ses camarades nationalistes, après sa brouille avec ceux qu'on a baptisé les leaders historiques du FLN, il a non seulement pris le contrôle du parti, mais il est également parvenu à se faire élire président de la République algérienne. Un peu plus d'un an après son entrée par la force, jugé sur les chars du colonel Boumédienne, il est le chef de l'État. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella.
Notre pays est pauvre. Et notre peuple qui a tant enduré ne tolère pas le spectacle d'une administration et de fonctionnaires qui vivraient en paradis.
L'heure est donc venue de mettre les Algériens au travail. Ahmed Ben Bella veut mettre en œuvre son programme, son idéologie socialiste à l'algérienne. Mais la popularité de Ben Bella à l'étranger ne fait pas pour autant l'unanimité à l'intérieur du pays. Tous les anciens amis sont désormais dans l'opposition. Notamment aussi Naït Ahmed avec son FFS, le Front des Forces Socialistes, qui dénonce la dictature.
L'armée nationale populaire n'a eu que de très légers accrochages dans les régions de Dizi Ouzou et de Michelet avec les troupes du colonel Mohand et Naït Ahmed. Après 7 ans de guerre, l'Algérie, à la recherche de solutions à ses problèmes économiques, ne souhaitait d'ailleurs pas que de nouvelles opérations militaires soient déclenchées pour venir à bout de la rébellion kabyle. Après avoir appelé la population à se révolter contre le gouvernement d'Alger, les chefs rebelles ont préféré donner à leur lutte un caractère plus politique que militaire. Mais évoquant les débordements d'Aït Ahmed et du colonel Mohand ou El Hadi, le président Ben Bella a dit qu'il est évident qu'ils seront arrêtés.
28 septembre 1963. D'anciens officiers des Wilayas 3 et 4, des hommes politiques se réunissaient dans les locaux de l'ancienne mairie de Aïn El Hamad à 50 km à l'est de Tizi Ouzou. Parmi eux, Aït Medri Beylaït, Mourad Oussédik, Ali Yahya Abdennour, Aït Ahmed, le colonel Mohan Oulaj, le lieutenant Yahya Abdelhafid, Aboubakr Belkaïd, Ali Yamar et un certain nombre d'autres militants de la première heure. C'était l'ultime réunion de ce mouvement avant sa proclamation publique le lendemain à Tizi Ouzou. Leur objectif, mettre fin à l'immense pouvoir que s'est arrogé Ahmed Ben Bella.
Il y a à peine 2 mois, quand je vous ai rencontré, vous étiez en civil et aujourd'hui vous êtes en militaire. C'est donc l'épreuve de force.
Aujourd'hui, que nous avons atteint un seuil à partir duquel, où c'est la fascisation, c'est-à-dire la mort, la misère morale pour notre peuple, la misère sociale qui doit nécessairement suivre cette misère morale, ou bien la résurrection de notre révolution.
Le fait de vous trouver là, dans le maquis, en pleine Kabylie, veut-il dire qu'il n'y a plus de chance de dialogue et que l'on risque d'avoir la guérilla?
S'il y avait eu la moindre chance de dialogue, nous n'aurions pas raté. Et l'expérience que les uns et les autres avons faite, aussi bien à l'Assemblée nationale, dans le FLN et dans l'ANP, a montré que toutes les issues étaient bouchées.
Pas question pour Ben Bella de négocier avec cette rébellion.
À partir du moment présent, j'assume les pleins pouvoirs afin de maintenir, comme j'en ai reçu la mission et comme j'en ai fait le serment, la République démocratique et populaire dans la voie que vous lui avez tracée.
Le président Ben Bella, après lecture de ce message, déclara à l'Assemblée que, s'étant rendu aux arguments que lui ont présentés certains députés, il va donner quelques précisions. Je voudrais, dit-il, en tant que secrétaire général du parti, dire qu'il n'y a pas d'opposition kabyle, que c'est une erreur, qu'il est même dangereux pour notre pays de parler de sécession, d'opposition kabyle. Elle n'existe pas. Et il a ajouté, des opposants se trouvent ailleurs même qu'en Kabylie. Le président Ben Bella a terminé cette intervention en lançant un appel à ceux qui se sont laissés entraîner par les meneurs. Il a précisé que s'il y a des problèmes qui se posent, ils ne peuvent être discutés dans la montagne, la mitraillette à la main, mais dans le cadre du parti.
Hervé Bourges, conseiller du président Ben Bella.
Et à un moment, j'ai été contacté par des membres de l'entourage d'Aït Ahmed disant qu'ils voulaient faire parvenir un message au président Ben Bella. J'en ai parlé au président Ben Bella. Il n'est pas question pour moi de faire quelque chose sans son accord. Il m'a autorisé à aller rencontrer Aït Ahmed dans les profondeurs de la Kabylie, à mes risques et périls. J'y suis allé, j'ai rencontré Aït Ahmed, qui m'a dit le seul problème entre Ahmed, c'est-à-dire Ben Bella, et moi, c'est Boumedienne.
La suite, Ben Bella et Boumedienne envoient l'armée en Kabylie dès les premiers jours d'octobre.
Un escadron de gendarmes algériens appuyé par des éléments de l'ANP, l'Armée Nationale Populaire, a pris position sur la route qui relie Alger à Tizi Ouzou, à l'intérieur du barrage, côté Kabyle. Par conséquent, les insurgés continuent de mettre en place un dispositif de défense, d'artillerie lourde notamment. Il semble que sur les 9 bataillons que compterait la 7e région militaire, 6 ou 7 se seraient déclarés en faveur du mouvement du colonel Mohandou Al-Hadj.
Les premières négociations démarrent enfin en octobre 1963 entre Ben Bella et des responsables du FFS. Boudiaf et quelques-uns des officiers vont être libérés après plusieurs mois d'emprisonnement. Colonel Boumnider, le lieutenant Alouache et d'autres prisonniers politiques arrêtés depuis des mois. Mais le FFS va reprendre le chemin du maquis quelques mois après. Ben Bella et son ministre de la Défense répliquent. La répression est terrible. Plus de 400 morts du côté du FFS et près de 3000 personnes arrêtées. Novembre 1963. Ahmed Ben Bella procède cette fois-ci à la nationalisation des biens fonciers des Français et des pieds noirs. Il va être particulièrement dur avec les pieds noirs.
Je ne pouvais pas concevoir une Algérie avec 1 500 000 pieds noirs. Et ce n'est pas un acte de rejet, je vous assure. Les pieds noirs, moi, je pense qu'ils ont été victimes. J'ai des amis parmi les pieds noirs. Mais lucidement, je ne voyais pas le projet de l'Algérie que j'avais, que je portais en moi. Une Algérie révolutionnaire, une Algérie qui allait vers des options socialistes. Une Algérie qui allait combattre l'impérialisme, qui serait engagée totalement dans le combat anti-impérialiste. Non seulement pour l'Algérie, mais pour les autres pays. Nous avons fait ça. Elle ne pouvait pas avoir la prétention de le faire avec un système de rhodésie.
C'est bien quand même que les colons, les gros colons, sont peu nombreux, que la majeure partie des pieds noirs.
Ils étaient quand même, ils sont une vingtaine de mille, ils disposaient de 3 millions d'hectares, les meilleures terres de l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette Algérie dont 3 millions d'hectares, les meilleures cavités spoliées, restent entre les mains des colons? Je l'ai dit très franchement au général de Gaulle, j'ai dit, écoutez, nous allons faire la réforme agraire. Il m'avait dit, je me rappelle très très bien, mais enfin les accords d'Évian. C'est M. Gorz. Je lui ai dit, les accords d'Évian, ce n'est pas le Coran ni la Sunna.
Soutenu par l'Égypte et par Cuba, Ahmed Ben Bella va s'engager dans ce que l'on va appeler la guerre des sables contre le Maroc. Tout commence le 30 septembre 1963, lorsque le président Ben Bella affirme que les forces marocaines près de la frontière soutiennent le soulèvement de Hossein Aït Ahmed. Le 2 octobre, l'armée algérienne s'empare de Tijoub, Itch et Assibeïda. Les Marocains les reprennent peu de temps après.
Comment elle se passe, cette guerre?
Cette guerre se passe très bien. Nous sommes gonflés. Nous sommes prêts à défendre notre territoire. Et nous sommes prêts à défendre le pouce de notre terre, n'est-ce pas, pour que les Algériens ne s'approchent pas de notre territoire national.
Dans cette bataille, l'Algérie se fournit en armement auprès de Cuba, dont un contingent de 686 hommes avec aviation, blindés et artillerie, mais également auprès de l'Égypte avec 1000 soldats envoyés en Algérie, pendant que le Maroc ne reçoit aucun appui direct des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne ou de la France. Après l'atterrissage d'urgence d'un hélicoptère algérien en panne derrière les frontières marocaines le 20 octobre 1963, 5 officiers égyptiens sont capturés. 3 colonels égyptiens sont présentés à la presse. Le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec Cuba et rappelle ses ambassadeurs en Égypte et en Syrie. 350 professeurs égyptiens sont expulsés. La bataille la plus importante se déroule le 25 octobre. Environ 200 Algériens sont capturés près de Assibeïda. Après plusieurs mois de batailles sanglantes entre les deux voisins, on va finir par obtenir un cessez-le-feu définitif le 20 février 1964. Il définit les contours de la zone démilitarisée et marque la reprise officielle des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Les troupes marocaines qui occupent toujours Assi Beïda et Tindjoub et les troupes algériennes qui entourent Figuig peuvent enfin se replier. Ahmed Ben Bella se rapproche des puissances communistes telles que la Chine et l'Union soviétique. Partisan du panarabisme et admirateur du colonel Nasser, il entreprend une politique d'arabisation de l'enseignement et fait appel à des instituteurs égyptiens.
En France, hier, l'événement, c'était donc la rencontre inattendue du général de Gaulle et du président Ben Bella. Elle s'est déroulée, cette rencontre, au château de Champs, près de Melun. Le président Ben Bella, Victor Vraiment, revenait de Yougoslavie.
Au début de l'après-midi, le protocole algérien jouait encore le jeu jusqu'au bout, le jeu du secret. Il annonçait aux diplomates le retour à Alger du président algérien pour 16 heures. Ensuite, son arrivée était annoncée pour 19 heures. Entre-temps, les agences de presse prévenaient les journalistes que l'avion du président Ben Bella atterrissait à Melun-Villaroche. C'était la surprise du jour. L'Élysée révélait que les deux interlocuteurs avaient examiné l'ensemble des relations franco-algériennes et aussi qu'ils avaient marqué leur volonté commune de maintenir et de développer la coopération.
Ce qui d'ailleurs était confirmé par le président Ben Bella lui-même dès son retour à Alger.
Je pense que ce contact, des discussions que nous avons vues, vont permettre de consolider la coopération et nous sommes de mieux à affermir l'action commune et le choix que nous avons tous deux fait, notre pays, la France et l'Algérie, pour une véritable coopération, une coopération valable, solide, et qui ouvre des perspectives très prometteuses pour notre pays.
Ahmed Ben Bella, quelques décennies plus tard, évoque le souvenir du général de Gaulle.
Personne ne nous a fait la guerre autant que de Gaulle. Personne. Personne ne nous a fait mal autant que lui. Avec les opérations précieuses et les opérations d'Ak et l'Algérie, les mines sur nos frontières qui tuent encore aujourd'hui. Pour nous, la guerre n'est pas terminée. Il y a des enfants qui meurent à ce jour. Quand j'étais au pouvoir, tous les jours, des enfants sautaient. Donc, il nous a fait la guerre, ce bonhomme, plus que les autres. Mais enfin, c'est un homme qui avait une autre dimension. Il avait une autre dimension. C'est un adversaire que, personnellement, moi, je respecte beaucoup, je dois dire.
Dans cette période de 1964, Ben Bella concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il est le chef tout-puissant. Seulement entre lui et le numéro 2, le ministre de la Défense, Wari Boumdjian, apparaissent quelques divergences. Mais c'est surtout sur les accords conclus entre Ahmed Ben Bella et aussi Aït Ahmed qu'il ne supporte pas. Il craint en réalité que ce dernier parvienne à convaincre Ben Bella de la nécessité de l'écarter. Pour Ben Bella, ce désaccord avec celui qui lui a permis quelques années plus tôt de prendre Alger n'est pas grave. Il faut dire que Wari Boumdjian est le vice-président du gouvernement et ministre de la Défense. Il tient donc toute la puissance militaire. Ben Bella, qui sait qu'il ne peut pas directement s'attaquer à Boumdjian, adopte une stratégie d'assèchement. Il essaie de réduire l'influence du clan d'Oujda au sein de son gouvernement, ceux proches de Boumdjian. Il va dans un premier temps obtenir la démission d'Ahmed Medegri, le ministre de l'Intérieur, puis celle de Kaït Ahmed, le ministre du Tourisme. Dans le même temps, il réduit considérablement les attributions de Chérif Belkacem, un des membres du clan d'Oujda, ministre de l'Orientation, qui a sous son autorité l'information, l'éducation nationale et la jeunesse. Le président de la République, déjà chef du gouvernement et secrétaire général du FLN, s'attribue les portefeuilles de l'intérieur, des finances et de l'information. Ben Bella rassemble sur son nom toutes les oppositions. Le 28 mai 1965, alors que le colonel Boumdjian représente l'Algérie à la conférence des chefs de gouvernement arabes au Caire, Ben Bella annonce qu'il retire à Abdelaziz Bouteflika, autre membre du clan d'Oujda, son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Boumdjian, furieux, rentre précipitamment à Alger. Réunion de crise avec ses lieutenants. Il faut passer à l'action.
L'avenue Pasteur du moment, on a vu des mouvements de troupes terribles. Alors j'ai mis la tête à la fenêtre de la voiture, à la portière, et j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Et on me répond, en rigolant, on est en train de tourner la bataille d'Alger.
Le film qu'on tournait à ce moment-là.
Je croyais que c'était vrai. Et puis le lendemain, quand on a allumé la radio, on a appris que Boumediene avait renversé Ben Bella. Et la chose extra de fantastique, de pas croyable, c'est que la veille, Ben Bella était à une manifestation de femmes. Et toutes les femmes, c'était Ben Bella, Yaya, Ben Bella, Yaya. On lui jetait les alliances, on lui jetait les colliers, on lui jetait tout. Pour... C'était vraiment l'euphorie, c'était leur dieu. Et le lendemain, quand il a été arrêté, rien. Personne n'a bougé.
L'Algérie est à un nouveau tournant. La destitution de Ben Bella par le colonel Boumediene, chef de l'armée nationale populaire, est un épisode de la lutte qui, depuis l'indépendance, a opposé les deux hommes. Pendant 3 ans, le colonel Boumediene, pour qui un soldat doit avoir un fusil à la main et la politique dans la tête, a compté les erreurs de son adversaire.
19 juin 1965. Wari Boumediene passe enfin à l'action. 2h30 du matin, le colonel Sbiri, accompagné de Ahmed Draya, le chef de la sûreté, et Saïd Abid, commandant de la première région militaire, investissent la villa jolie où réside le président Ben Bella. Le chef de l'État est sorti sans ménagement de son lit. Au nom du Conseil de la Révolution, j'ai l'ordre de vous arrêter sous l'inculpation de haute trahison, lui lance Sbiri. Encadré par les 3 officiers, le président monte dans une voiture noire qui l'amène vers une destination inconnue. Boumediene, dans son quartier général, attend le rapport de ses hommes. Le téléphone sonne. Au bout du fil, le colonel Sbiri. Mission accomplie. À l'aube, l'armée du colonel Wari Boumediene vient de prendre le pouvoir. Les Algérois se réveillent avec des chars et des hommes en tenue de combat postés à tous les points stratégiques de la capitale. Les émissions habituelles de Radio Alger sont remplacés par de la musique militaire et la diffusion de communiqués en boucle en arabe et en français. Le président déchu y est qualifié de despote et de tyran. À 12h05, dans un message radiodiffusé, le colonel Boumediene annonce la création d'un conseil de la révolution qui assume tous les pouvoirs.
Un coup d'État, un coup de théâtre aussi. Un coup de théâtre dont nous avons suivi le déroulement toute la matinée grâce à notre centre d'écoute de Limour. Et ce matin, voici ce que l'on entendait sur 306 mètres en moyenne.
Algériennes, Algériens, officiers, sous-officiers et junoudes, militants du parti et des organisations nationales, fonctionnaires de l'État, responsables des corps de sécurité, tous à l'écoute, une déclaration importante sera faite dans quelques instants.
Peuple algérien. Un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Un État qui saura survivre au gouvernement et aux hommes.
Ce coup d'État se produit à la veille du sommet afro-asiatique prévu à Alger, auquel le premier ministre chinois Chuan Lai et le président égyptien Nasser devaient participer, et au cours duquel le président Ben Bella devait apparaître comme l'un des principaux leaders du tiers-monde. Il intervient en outre quelques mois après l'accord secret entre Ben Bella et le FFS de Hosseinaïd Ahmed, qui était entré en dissidence dans son fief kabyle depuis 1963. Le colonel Boumediene, dont les troupes quadrillent depuis 1 an et demi les maquis de Kabylie, n'est pas favorable à ce rapprochement. Dès le lendemain du coup d'État, la chasse aux benbellistes et aux opposants de gauche est lancée dans les ruelles de la capitale, à la fois massive et violente. Les camions de l'armée sillonnent les rues d'Alger. Les manifestants parcourent les rues au cri de Boumediene assassin. Ils sont environ 2000 ou 3000 personnes. Ben Bella, lui, a disparu. Il a été emmené dans un lieu tenu secret. Mais qu'ont-ils fait de lui? Une chose est certaine, Ahmed Ben Bella est renversé. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de lui comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur RFI dans une dizaine de minutes. À très vite.
Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, du parti, des organisations nationales, des administrations, devront rester à leur poste afin d'assumer totalement leur mission. Il leur est demandé la vigilance la plus stricte afin d'éviter toute atteinte à la nation. Les populations des campagnes et des villes devront vaquer normalement à leurs occupations et l'activité générale du pays ne doit en aucun cas souffrir de relâchement.
3 ans seulement après avoir pris le pouvoir, celui qui s'est fait élire premier président de la République algérienne a été renversé cette nuit du 19 juin 1965 par son ministre de la Défense, Wari Boumediene. Ahmed Ben Bella a été emmené en un lieu tenu secret. Et personne en dehors des nouveaux dirigeants du pays ne sait s'il a été tué ou simplement incarcéré. Il est enfermé dans une sinistre villa loin d'Alger où il ne reçoit aucune visite malgré les protestations de ses avocats. Maître Madeleine Lafouverie.
C'était un homme qui avait disparu, que le président Boumediene voulait absolument que le monde croie que cet homme avait complètement disparu. Et alors, j'ai écrit au président Boumediene avec accusé de réception. Les accusés de réception me sont toujours revenus signer, je n'ai jamais eu aucune réponse. C'était une période extrêmement angoissante pendant 8 mois. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la pression de l'opinion publique, si les journalistes ne nous avaient pas aidés à faire savoir qu'un homme avait disparu et qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu, je pense que la mère du président Ben Bella n'aurait pas été autorisée à le voir. Au bout de 8 mois, elle a été autorisée à le voir.
Pendant 6 mois, Ahmed Ben Bella va vivre tout seul comme un reclus dans cette villa où il ne peut sortir. Et puis, on l'autorise à briser cet isolement en lui permettant de se marier.
C'est par un pur hasard que j'ai rencontré la femme de cet ancien chef de cabinet, qui s'appelle Fatima, qui est ensuite devenue une amie. Je lui ai plu, elle m'a trouvée intéressante. Et elle m'a demandé d'aller la voir. Je suis allée la voir chez elle. Et ensuite, elle m'a demandé si je pouvais accepter d'épouser Ben Bella. À la question, j'ai répondu par un formidable éclat de rire en lui disant « Mais vous savez pas, j'étais dans l'opposition !» Elle me dit « Je le sais, mais je sais aussi que vous êtes une personne loyale et à principe. » Donc j'ai une autorisation de visite, je l'ai vue. Puis quand je l'ai vue dans l'embrasure de la porte, j'ai su que j'allais l'épouser. Tout de suite.
Le couple va vivre tout seul dans cette prison totalement coupée du monde.
Le mariage pour Zora Selami, c'est donc la captivité volontaire dans un lieu tenu secret au sud d'Alger qu'on appelle le château Holden.
C'était des portes très très épaisses avec un judas, avec des grilles. Toutes les fenêtres étaient grillagées. Les vitres étaient passées à la chaux blanche pour pas qu'on puisse voir le jardin. Nous n'avons eu accès au jardin que la dernière année de notre détention, après que nous ayons fait une grève de la faim.
Le couple Ben Bella, qui s'ennuie tout seul dans cette prison où ils sont enfermés et coupés du monde, va adopter 2 enfants. Une fille, Maïdia, et une seconde, une autiste, Nouria.
Ben Bella est donc libre, celui qui fut l'un des chefs historiques de la révolution algérienne, puis le premier président de la République après les accords d'Évian, est sorti hier de sa résidence surveillée des environs d'Alger, où il vivait avec sa femme Zora et leurs 2 petites filles adoptives depuis 14 ans, depuis ce mois de juin 1965 où le colonel Boumediene avait pris le pouvoir à Alger avant de le succéder à la présidence. Les autorités algériennes ont pris cette mesure de clémence à l'occasion du 17e anniversaire de l'indépendance algérienne.
En réalité, le président Wari Boumediene est mort et Ahmed Ben Bella bénéficie ce 30 octobre 1980 de la clémence du nouveau chef de l'État, Chadli Ben Jadid. 15 ans de prison. Il va aussitôt prendre le chemin de l'exil. Il se rend d'abord en pèlerinage à la Mecque et ne revient pas à Alger.
Il y avait un passager pas tout à fait comme les autres dans l'avion de la compagnie Air Algérie qui s'est posé hier après-midi à Orly. Un passager qui voyageait comme monsieur tout le monde, mais qui a tout de même été le premier citoyen de son pays jusqu'en 1965, Ahmed Ben Bella. L'ancien président de la République algérienne, qui a retrouvé son passeport récemment après 16 ans de disgrâce, a choisi Paris pour son premier voyage à l'étranger. Il est venu à Paris pour remercier ses amis, ceux qui l'ont soutenu à l'époque où il était prisonnier. Ben Bella, vous le savez, avait passé 7 ans dans les prisons françaises pour ses activités révolutionnaires pendant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, c'est un homme qui a rompu avec la politique. Il a expliqué à Bertrand Vanier que ses 2 centres d'intérêt, c'était l'islam et le tiers-monde. Il a également ajouté un commentaire sur la nouvelle équipe dirigeante en France.
Je souhaite
souhaite que la nouvelle équipe dirigeante établisse de nouveaux rapports avec mon pays, avec les dirigeants du pays, qu'il y ait une approche nouvelle aussi, plus réaliste, plus intelligente, plus positive relativement à l'existence de cette immigration, de ces problèmes.
Ben Bella va ensuite prendre la direction de la Suisse. Il crée alors le mouvement pour la démocratie en Algérie et se rapproche de son ex-rival, l'autre leader historique du FLN, Hossine Aïd Ahmed, qui vit lui aussi en exil.
Nous voulions, avec ce qui existait à l'époque, essayer de revenir à une situation ancienne, c'est-à-dire une situation où les différentes sensibilités politiques puissent avoir exprimé leur point de vue. Pourquoi pas, même le fils. Le peuple décidera. Moi, je pense personnellement qu'actuellement, c'est fait, sincèrement. Je pense que ce qu'on a gagné avec maintenant la réconciliation nationale, c'est que vraiment, maintenant les Algériens, sincèrement, je dis sincèrement, ils n'ont pas envie de revenir à la période du fils. Hein. Je dis même ceux qui étaient fils, voilà ce que je veux dire. Nous avons gagné au moins ça, n'est-ce pas ?
27 septembre 1990, Ben Bella est de retour à Alger. Et très rapidement, il va se présenter en moralisateur de la vie publique. Il demande au président Jatli d'ouvrir tous les dossiers de corruption. Ahmed Ben Bella.
Ça, je vous dis franchement, ce n'est pas... voilà, tout simplement, ce n'est pas un mauvais type, Charlie. Sincèrement, ce n'est pas un type qui a assoiffé de sang, etc. Mais je pense que c'est là où on a donné le plus libre cours à la corruption. Hein. Mais là, lui, personnellement, n'est pas un mauvais personnage, sincèrement. Non. Et je ne pense pas qu'il était à la hauteur de la responsabilité qu'il a assumée, voilà, tout simplement.
Ben Bella se passionne également dans cette période pour de grands sujets internationaux, notamment la question de la Palestine et de l'Irak de Saddam Hussein. Il prône une alliance arabe contre l'agression occidentale en Irak. Il va même rejoindre les altermondialistes pour lutter contre la mondialisation capitaliste. 11 janvier 1992, après plusieurs mois de crise politique, où le fils... Le Front islamique de salut est en train de remporter les élections, où il s'installe dans de nombreuses municipalités, pendant que les différents partis politiques s'effondrent. Le président Chatli, bousculé par l'armée, décide de démissionner de sa fonction de président de la République. C'est la crise.
Au fond de moi, je craignais la prise de pouvoir par le fils. Parce que je savais ce qui s'était passé en Égypte avec les frères musulmans. Les actions qu'ils avaient menées, j'étais à cette époque au Caire, et ça m'avait donné l'occasion d'approcher un peu ces mouvements et de voir ce qu'ils sont. Et je n'étais pas du tout convaincu par les frères musulmans, je dois le dire. Et donc, je sais que le fils chez nous, c'est un peu la reproduction de ça. Je ne pense pas que l'armée, ce soit la vraie solution, mais j'ai encore beaucoup plus peur d'une période qui est gérée par le fils.
L'armée met fin donc au processus démocratique engagé. Ahmed Ben Bella.
J'ai été consulté par Bouteflika. À minuit, celui qui est à la porte de chez moi, il vient et me dit, Ahmed, à la porte, il y a Bouteflika et il y a Abou Bakr. Belkaïd, c'est une des têtes, vous savez, de la réflexion en Algérie. C'est un type qui travaille chez Renault, je crois. C'est un syndicaliste, mais une tête bien faite, vous savez. Et c'est un des rares Algériens capables de créer un scénario, vous savez. Bouteflika, accompagné de Belkaïd. Hein. Et je suis étonné, n'est-ce pas, vers le minuit, et je les reçois. Et voilà, Abdelaziz me dit, Ahmed, ça fait 15 jours que je suis en contact avec les militaires. Et il vient de satisfaire à toutes mes demandes. Mais je vais te dire, si tu me dis, tu ne vas pas, j'irai pas. Je dis, mais il s'agit de quoi? Il me dit, voilà, ils m'ont choisi donc pour que je sois le candidat qui etc. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire?
Ça, c'est quel jour?
Ça, c'est la nuit, à minuit, la veille de son départ en Suisse. Parce que à partir de ça, il sort et il décide d'aller en Suisse.
Mais quel jour vous pouvez nous remettre dans le temps
ça parce que...
C'est en janvier 92 ou décembre 91, quand le fils a déjà gagné les élections?
Moi, ça ne me dit rien du tout, c'est la veille de son départ. C'est la première fois où on lui demande de...
Est-ce que le fils a déjà gagné les élections?
Oui. Donc... Je lui dis personnellement, je lui dis, oui, je pense que tu devrais accepter à condition qu'on te donne les moyens de ta politique. Il faut que l'armée se désiste en ta faveur, tu ne vas pas pour être un faire valoir. Si c'est ça, je vais te dire, si tu fais ça, et si tu ramènes la paix en Algérie, tu vas passer par la grande porte d'histoire. Et il me dit, et je peux compter sur toi? J'ai dit, oui, tu peux compter sur moi. Et moi, je crois qu'il va accepter. Et effectivement, il va leur dire non. Ils vont lui envoyer Belkacem Cherif, ils vont lui envoyer un tas de gens. Il fiche le camp. Il vient en Suisse, il reste en Suisse. Voilà. La seconde fois, il ne fait pas ça, mais disons, il me fait savoir que, voilà, il veut. Et je l'encourage. Je l'encourage avec la conviction qu'il est le meilleur, disons, de... La dernière fois, j'ai dit une chose qui a pu peut-être... J'ai dit c'est le moins nuisible. Parce que j'ai la conviction que les chefs d'État du tiers-monde sont devenus des commissionnaires de M. Bush, sincèrement.
L'Algérie va entrer dans l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Tous les sympathisants islamistes sont arrêtés. La condamnation d'Abbassi Madani et d'Ali Bellaj, le 15 juillet, à 12 ans de réclusion, active les haines. Le fils passe à l'action. Les mouvements armés sont créés. L'un d'eux, le groupe islamique armé, GIA, qui va instaurer la terreur dans tout le territoire national, se lance dans les attentats et le terrorisme les plus meurtriers depuis 1962. En 6 mois, le pays a basculé dans une guerre civile ouverte. Assassinats d'intellectuels, de magistrats ou de policiers, de personnalités de renom, mais aussi des dizaines de journalistes et des enseignants, ainsi que des ressortissants étrangers. Arrestations en masse de militants islamistes qui seront emprisonnés dans les camps d'internement dans le sud algérien. Procès et condamnations se succèdent. Ahmed Ben Bella.
Je comprends que le tribunal de Tlemcen ait pris, disons, qu'il ait eu ce jugement, ça je le comprends. Mais je comprendrais moins que la sentence soit exécutée. Je ne crois pas que la solution soit celle d'extirper le fils du paysage politique. Le fils, c'est le thermomètre qui exprime une réalité dure. Une société qui est fracassée, qui roule à deux vitesses, n'est-ce pas, celle de 10% de nantis et celle de 90% de gens qui sont dans une situation inquiétante et parfois très, très dégradée. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra aller à un genre de consensus. Il faut que le fils, comprenne qu'il ne peut pas instaurer ce qu'il appelle un État islamique en Algérie. Le corps électoral même avec son score, le score réalisé, qui est important, eh bien, le dit parfaitement, il est clair, 13 millions contre 3 millions, le fils n'est pas seul en Algérie, il ne peut pas exprimer à lui seul toute la réalité de l'Algérie. Les Algériens n'acceptent pas l'instauration d'un État dit islamique, cela c'est clair. Mais on n'expurge pas. On ne règle pas une expression politique aussi importante que celle du fils actuellement en Algérie par une décision ou par un oukase, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut que nous allions un jour ou l'autre à un consensus qui verrait le fils représenté d'une façon assez conséquente, mais qui démontrerait qu'il ne peut pas lui seul gérer l'Algérie. Il faut que nous allions à un consensus, à un gouvernement d'union nationale.
Je pense qu'il est capable, il est le mieux capable, disons, d'apporter quelque chose à l'Algérie. Aujourd'hui, je pense que c'est le mieux. Et j'oublie ça. Parce que je considère que les autres ne peuvent pas faire à l'Algérie ce que lui peut faire, justement. Parce que je le connais très bien. Il était mon ministre à l'âge de 25 ans.
La vie politique est singulière, tout de même. Ben Bella, en cette année 1999, soutient la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, celui-là même qui avait été l'un des éléments déclencheurs de sa chute en 1965. Ben Bella sera à la tribune à la prestation de serment du président Abdelaziz Bouteflika en 2009. L'ancien président va devenir principal partisan de la négociation avec les islamistes du Front islamique du Salut. Il est le président de la commission de réconciliation nationale.
C'est des politiciens, c'est des partis qui ont voulu, finalement, ils ont créé des commissions pour la réconciliation. Et qui sont venus me dire, Ahmed, nous savons ce que tu fais, etc. Nous voudrions que tu nous aides, nous aussi, on veut faire ça. Mais ils ne m'ont pas dit qu'ils venaient au nom d'un parti.
Des funérailles nationales et une semaine de deuil national pour Ahmed Ben Bellal, l'ancien président algérien, l'un des pionniers de la guerre d'indépendance de l'Algérie, est mort hier à son domicile à l'âge de 95 ans. Ben Bellal, le père de l'indépendance, aura profondément marqué le pays. Reportage à Alger de Marie Euclin.
Depuis son retour en Algérie en 1990, Ahmed Ben Bellal vivait dans le quartier de Hydra, sur les hauteurs d'Alger. Ici, la mort de l'ancien président s'est propagée très rapidement hier, et les habitants saluent l'homme de l'indépendance.
C'est un grand homme, c'est un grand homme, on le respecte beaucoup, 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 beaucoup.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, justement ?
Il représentait pour moi l'indépendance, je suis libre maintenant, c'est grâce à lui. Bon, mais c'est un tout, mais c'est un grand homme. C'est des gens qui sont montés au maquis, donc avant, bien avant le maquis, ils sont très, 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 très jeunes.
C'est un grand homme, c'est un révolutionnaire, et je le respecte beaucoup. C'est le premier président en Algérie. C'est l'histoire.
Mais pour la jeune génération, le nom d'Ahmed Ben Bellal n'évoque finalement plus grand-chose. Certains savent à peine qu'il a été le premier président de l'Algérie indépendante.
Il n'est pas de notre époque. Moi, je ne connais rien du tout sur lui. Bon, c'est le premier président de l'État algérien indépendante. Est-ce qu'il a fait du bien ou du mal pour le pays? Je ne sais pas.
Je ne le connais pas du tout. J'entends parler de lui comme ça. Mais bon, je ne connais pas son parcours. Je ne connais rien de lui, hein, franchement.
Malgré tout, tous estiment que le pays doit honorer sa mémoire et tout ce qu'il a fait pour l'Algérie.
Ahmed Ben Bellal est donc décédé à son domicile à Alger ce 11 avril 2012 à l'âge de 95 ans. Le gouvernement algérien décrète un deuil national de 8 jours. Ses funérailles sont suivies par les plus hautes autorités algériennes et par des chefs d'État ou de gouvernement des pays voisins. Le 16 avril 2012, le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, baptise du nom de l'ancien président l'aéroport d'Oran, aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bellal. Ainsi se termine l'histoire de ce militant indépendantiste algérien, Ahmed Ben Bellal. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur notre page Facebook. En vous donnant également rendez-vous sur l'antenne la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي غبت عليكم وخليت داري جرحت خدودي وبشري يا ربي علي حن عليا جرحت خدودي وبشري شوف حبابي وزول غياري بابا ويما العزاز عليا
J'aime toute les villes un peu plus Paris لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est حبة في الهبال فاين نكون ما ننسان ألجي ألجي شحال نحبها